18h, 20h, le grand déballage. Delphine Thébault.
Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission d'actualité, le grand déballage. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h et ce soir c'est une émission spéciale jusqu'à 19h. C'est actualité. Que s'est-il passé cette semaine? Qu'est-ce qui a fait l'actualité, que ce soit à l'échelle internationale, en France? Et puis ensuite, 19h-20h, place au vivre ensemble puisque vous aurez la chance d'écouter une émission spéciale qui a été diffusée sur notre antenne de Beurre FM Rouen, réalisée en partenariat avec RCF Haute-Normandie. Au menu de cette émission, dialogue interreligieux entre chrétiens et musulmans et mise en lumière des initiatives prises pour le vivre ensemble. Mais pour l'heure donc et jusqu'à 19h, place à l'actualité. Et on ouvre cette émission avec ce qui a fait la une cette semaine en France. Alors cette semaine, il y a eu une polémique. Emmanuel Macron s'est pour la première fois exprimé devant la conférence des évêques de France. Un long discours, c'était donc une première et je vous propose de l'écouter.
Pour nous retrouver ici ce soir, Monseigneur, nous avons sans doute, vous et moi, bravé les sceptiques de chaque bord. Et si nous l'avons fait, c'est sans doute que nous partageons confusément le sentiment que le lien entre l'Église et l'État s'est abîmé et qu'il nous importe à vous comme à moi de le réparer. Pour cela, il n'est pas d'autre moyen qu'un dialogue en vérité. Ce dialogue est indispensable et si je devais résumer mon point de vue, je dirais qu'une Église prétendant se désintéresser des questions temporelles n'irait pas au bout de sa vocation et qu'un président de la République prétendant se désintéresser de l'Église et des catholiques manquerait à son devoir.
Et ces propos en question ont déclenché des réactions enflammées, principalement à gauche. On a eu la colère de Jean-Luc Mélenchon, le leader des Insoumis. On attend un président, on entend un sous-curé. Voilà notamment ce qu'il a tweeté sur son compte Twitter. Ce n'est pas passé non plus auprès du socialiste Olivier Faure, auprès de l'ancien candidat à la présidentielle, Benoît Hamon, qui s'est interrogé où était donc passée la laïcité. Ce n'est pas non plus passé auprès de Manuel Valls, l'ancien Premier ministre, a demandé complètement et carrément au chef de l'État de clarifier sa position sur la question de la laïcité. Et une polémique donc au moment même où les cheminots de la SNCF, eux, se mobilisaient et que la ZAD de Notre-Dame-des-Landes était évacuée, mais pas seulement. Une polémique au moment aussi où dans plusieurs lycées de Seine-Saint-Denis, les cours n'étaient pas assurés. À Stein, par exemple, au lycée Maurice Utriot, les enseignants exerçaient leur droit de retrait. Ils l'ont fait pendant plusieurs jours pour dénoncer un abandon, un manque de moyens et surtout de la violence aux abords du lycée, comme le raconte ce parent d'élève et cette enseignante d'histoire géographie.
Quand ma fille rentre, au lieu de demander comment ses cours sont passés, on parle plutôt de ce qui s'est passé à l'extérieur du lycée, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas eu d'agression, est-ce qu'il n'y a pas eu de mouvement de foule. En priorité, c'est d'abord la sécurité de ma fille et des élèves.
Il y a des années, on a retiré la police de proximité, ensuite on a retiré des éducateurs dans les cités, on a retiré des surveillants, on a retiré des enseignants. Et en fait, à force de retirer des personnes qui sont capables de dialoguer, de désamorcer les conflits, aujourd'hui on se retrouve dans ce genre de situation, c'est-à-dire un département qui est en train de craquer.
Le rectorat a tenté de répondre à cette colère légitime. Elle a envoyé à Stein des agents pour sécuriser les abords du lycée. Mais les professeurs, eux, ne comptent pas en rester là. Une mobilisation donc qui devrait se poursuivre dans les jours à venir à Stein, mais pas seulement. Mobilisation similaire également à Saint-Denis. Et un rapport cette semaine, c'est celui du défenseur des droits, Jacques Toubon. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ces rapports se suivent et se ressemblent. Un jeune, noir ou arabe, a 20 fois plus de chances d'être contrôlé en France qu'une autre personne. Le rapport nous apprend aussi que les noirs et les arabes seront une fois sur deux tutoyés par les forces de l'ordre durant le contrôle d'identité. Un rapport qui fait écho à une drôle d'histoire, une histoire qui s'est déroulée à Montpellier, au cinéma Gaumont de la Place de la Comédie, donc au plein cœur de la Vive. Un véritable délit de faciès, c'est un jeune homme qui le raconte. Il n'a pas pu assister à sa séance de cinéma, il est entré dans la salle, a pu s'asseoir, on lui a bien vendu un ticket. Seulement voilà, on est venu gentiment lui taper sur l'épaule juste avant le début de la séance pour lui demander de sortir. En cause, son keffieh qui aurait effrayé d'autres spectateurs. Il a donc été sorti du cinéma. Il a longuement échangé avec l'employé du cinéma Gaumont qui lui avait demandé de sortir. Elle a même reconnu une discrimination. Je vous propose d'écouter son témoignage.
Moi, je me fais sortir, je me fais discriminer. On avoue que c'est discriminatoire, mais on cherche pas à me comprendre. J'avais l'impression d'être déshumanisé, en fait. J'avais l'impression d'être une chaise, une table, je sais pas, qu'on déplace. Pour le bien commun, c'était normal de me sortir. Même si elle admet qu'il y ait une gêne à mon encontre, elle admettra même le caractère discriminant. C'était humiliant, humiliant, sachant qu'il y avait des clients qui rentraient et qui voyaient la scène. Mais qu'est-ce qu'ils voient ? Ils voient un arabe avec un turban sur la tête. Alors comment, il n'y a rien d'illégal à cela, hein. Mais dans l'inconscient collectif, je peux imaginer que certains ont dû se dire « Bon, mais qu'est-ce qu'il a fait celui-là » Voilà ce qu'on m'a obligé à subir.
Et ce jeune homme, en revanche, n'a pas décidé de porter plainte. Il a affirmé qu'il ne remettrait évidemment pas les pieds dans ce cinéma. Elles, en revanche, elles ont décidé de saisir la justice. Cette femme voilée de Perpignan avait déposé plainte après avoir été agressée, insultée même par une femme en raison de leur foulard. Cette femme en question, eh bien, elle a été condamnée à 4 mois de prison avec sursis. Elle doit aussi leur verser 500 € à chacune de dommages et intérêts. Coup de projecteur aussi cette semaine sur une problématique récurrente en France, les pannes d'ascenseurs. Elles durent des jours, des semaines et parfois même des mois, contraignant ainsi systématiquement des habitants âgés ou handicapés à l'isolement qu'ils ne peuvent même plus descendre faire leurs courses. Et bien pour parler à cela, un collectif s'est monté en Seine-Saint-Denis. Et c'est le collectif Plus sans ascenseur. L'un des membres de ce collectif, Sifoutoyen, était l'invité de la matinale cette semaine.
8h32, on a le plaisir d'avoir avec nous Fouad Benhamed, Delphine.
Exactement, Fouad Benhamed, bonjour.
Bonjour.
Vous militez au sein du collectif citoyen Plus sans ascenseur et c'est un sujet important aujourd'hui dont on veut parler sur Beurre FM, un sujet même récurrent, les ascenseurs en panne dans certaines collectivités et qui mettent des semaines, voire des mois parfois à être réparés. Les bailleurs sociaux répondent plutôt aux abonnés absents, ne sont pas forcément très réactifs et des pannes qui contraignent les résidents à devoir emprunter les escaliers parfois sur plus de 10 étages pour monter, descendre, aller faire leurs courses. Et vous avez donc monté ce collectif Plus sans ascenseur pour fédérer les habitants des quartiers, des villes qui sont confrontés à ce même problème. Est-ce que vous pouvez déjà, pour commencer, peut-être nous raconter comment est-ce qu'est né Plus sans ascenseur ?
En fait, Plus sans ascenseur est né il y a à peu près 18 mois. C'était en juillet 2016. On avait donc une femme qu'on connaît qui s'appelle Martine qui ne pouvait pas sortir de chez elle. Et quand j'ai croisé sa fille, je lui ai dit « Il faudrait que ta mère vienne à notre paella » parce qu'on fait une paella citoyenne chaque année à Bobigny. Et en fait, Martine n'est pas venue. Donc au début, je me suis posé la question pourquoi elle n'avait pas pu se rendre donc à notre paella. Et tout à l'heure, vous avez dit, quand vous avez présenté les problèmes d'ascenseur, que les gens en fait empruntent l'escalier. Mais en fait, on oublie qu'il y a des gens qui sont en fauteuil roulant.
Et qui ne peuvent pas.
Et qui ne peuvent pas du tout emprunter les escaliers. Et là, ça faisait bientôt 2 mois que l'ascenseur était en panne. Donc, ça faisait 2 mois que Martine était emprisonnée chez elle. Puisque la prison, c'est quoi ? C'est la privation de liberté. Et à partir du moment où on peut pas jouir de ses allées-venues, on est bloqué, on est emprisonné. Et suite à ça, en fait, pour nous, c'était une situation entre guillemets habituelle. On est habitué dans les quartiers depuis 30 ans à ce qu'il y ait des problèmes d'ascenseur et c'est extrêmement récurrent. Donc les gens sont résignés, se plaignent plus, les bailleurs n'ont pas de recommandés. Par contre, le gardien sait, les informations remontent. Ce qui nous a choqué en fait chez Martine, c'est que l'immeuble était neuf. L'immeuble avait 3 ans d'existence. Donc comment on peut expliquer ? Et il n'y avait pas de voyous, c'était un immeuble de 5 étages. Donc comment on peut expliquer que l'ascenseur était systématiquement en panne et comment on peut expliquer que l'ascenseur avait un problème qui devait durer 2 mois et demi. Donc quand on est arrivé, ils nous ont dit qu'il fallait 8 semaines pour le réparer.
Excusez-moi de sourire, pardon. C'est tellement le délai semble long et c'est inimaginable quoi en France.
Et justement, on a dit à Martine que en se mobilisant, on pouvait bouger les choses. Et effectivement, on s'est mobilisé. On a fait un communiqué de presse, on a appelé les médias, on a fait un rassemblement au pied de l'office HLM de Bobigny, et en 8 jours, ça s'est réglé. Donc on s'est dit, en fait, à la rigueur, on aurait souhaité que ça se règle en 6 semaines, mais en 8 jours, ça s'est réglé.
Donc vous êtes rendu compte qu'il y avait une espèce de priorité à 2 vitesses, peut-être suivant l'endroit où on se trouvait, l'endroit où on vivait.
Exactement. Et du coup, on s'est dit, on va regarder cette question beaucoup plus attentivement. Et ensuite, moi, je communique beaucoup sur les réseaux sociaux. Et quand on a raconté cette histoire de Martine dans les réseaux sociaux, on a été contacté après par beaucoup de personnes. Et là, on a fait plus de 120 mobilisations citoyennes. Et je vais pas vous dire, parce que les gens, j'ai pas envie de dire qu'on arrive à régler toutes les situations. Il y a 2 situations qu'on n'arrive pas à régler. Il y en a une à Épinay-sur-Seine, et le bailleur, c'est SNI, donc c'est la Caisse des dépôts et consignations. Et il y a un autre endroit, c'est le bailleur, c'est 3F, à Sevran-Bedotte. On n'arrive pas à régler. Et pour la petite histoire, moi, je suis cadre, je suis attaché territorial dans une collectivité. Comme on a fait un reportage avec la chaîne Planète sur Sevran, le bailleur a passé un coup de fil à mon employeur pour lui dire qu'il était pas très content que
petite pression politique.
Oui, c'est très compliqué. Mais mon employeur a dit que tant que je faisais ça entre midi et 14h et après,
ça ne me regardait pas. Voilà.
Que ça ne me regardait pas. Donc j'ai eu un soutien total. Mais il y a quand même aussi ce côté gêne, c'est-à-dire qu'ils ont honte qu'on montre
la réalité
des choses. Et en même temps, ils font pas le nécessaire pour changer la situation. Et moi, je vous le dis, il y a une discrimination territoriale sur cette question-là. Et les pouvoirs publics, en fait, ne bougent pas suffisamment. Les lois sont très bien faites. Vous avez, par exemple, une amicale des locataires. Vous regardez dans les statuts si cette amicale a le droit de se porter partie civile pour attaquer le bailleur. Il y a certains statuts qui le permettent pas. Donc, en fait, tout est fait pour que l'habitant soit un peu atomisé. Et sur l'histoire là actuellement qu'on est en train de gérer à Bobigny, c'est une femme qui a un handicap très lourd et qui est pas sortie de chez elle depuis 3 mois. Et j'ai une autre femme qui m'a contacté de Drancy qui est pas sortie de chez elle depuis 6 mois. C'est-à-dire qu'on a vraiment des cas où les gens sont laissés à l'abandon.
Oui, parce que ça veut dire pas de courses, pas de soins, pas de visite potentiellement, rien.
Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi, la dernière fois, j'ai vu un reportage en France où le président de la République nous parlait de doubler le budget de la recherche, de payer 2 fois plus les chercheurs, pas de problème. Mais régler au moins, les problèmes d'ascenseur. C'est-à-dire que, enfin, faut pas sortir d'un centre de recherche pour mettre des ascenseurs en fonctionnement.
Justement, vous évoquez le président de la République. Vous évoquez le président de la République. Une pétition lui a été envoyée à Emmanuel Macron. Exactement. Quid de cette pétition?
Aucune nouvelle. Alors, je vais être honnête avec vous parce que moi, je fais partie d'un parti politique et je veux pas faire la langue de bois. À l'époque, quand c'était les primaires, on a envoyé cette pétition. On l'a d'abord adressée à tous les candidats. Pas les primaires. En tout cas, on a envoyé à tous les candidats cette pétition, y compris celui de mon parti. Personne n'a répondu. Personne n'a répondu. Si, c'est Arthaud qui a répondu. Le reste, ils n'ont pas répondu. Donc, je pense que au-delà, en fait, du président Macron, c'est une question qui n'est pas, en tout cas aujourd'hui,
qui n'est absolument pas une priorité des politiques actuellement.
Soit elle n'est pas prise au sérieux, ou soit le retard est tellement important que les pouvoirs publics, en fait, ont très peur qu'on mette au jour cette situation. Mais nous, en février 2014, il y a une loi qui est passée à l'Assemblée nationale, c'est la loi sur la discrimination territoriale. On va les attaquer sur cette question-là. Alors, on n'a pas de moyens, on a un collectif, on n'a aucun moyen, mais on va essayer de faire une collecte de fonds pour pouvoir faire des constats d'huissiers. Et on fera des constats d'huissiers dans les endroits, dans les quartiers populaires, on fera des constats d'huissiers à Levallois-Perret ou dans le 17e. C'est-à-dire que si c'est un bailleur social et que l'intervention doit, par exemple, prendre 35 minutes, comme c'est prévu, par exemple, pour Otis, et ben si dans un quartier populaire, ça prend 2 heures, on attaquera les ascensoristes et on attaquera les bailleurs. Et il faut savoir que dans une ville, par exemple, comme Bobigny, le maire peut se substituer à l'ascensoriste pour faire les réparations, parce que le maire est garant de la sécurité physique de ses administrés, de ses habitants. Et dans ce cadre-là, il pourrait faire un constat d'huissier, envoyer faire un arrêté et envoyer un recommandé au bailleur en lui disant, si vous répondez, vous réparez pas dans les plus brefs délais, je réparerai à votre place. Et et je vous enverrai la facture. C'est possible.
Donc c'est une question de volonté politique. Merci beaucoup.
On marque une pause, on se retrouve dans quelques minutes. Vous êtes sur Beurre FM et vous écoutez votre émission d'actualité, Le Grand Déballage, jusqu'à 20h. À tout de suite.
Le Grand Déballage revient dans un instant. 18h, 20h, Le Grand Déballage, Delphine Thébault.
18h, 20h, Le Grand Déballage sur Beurre FM, votre émission d'actualité, une émission un peu particulière. Aujourd'hui, j'ai pris la place de façon exceptionnelle d'Adil Farkan et jusqu'à 19h, eh bien, on va ensemble refaire l'actualité de la semaine. Et puis ensuite, 19h, 20h, place à une émission spéciale consacrée au vivre ensemble avec la diffusion d'une émission qui a été déjà diffusée sur nos ondes à Beurre FM Rouen. Elle a été préparée conjointement avec RCF Haute-Normandie au programme de 19h à 20h. Écoute et dialogue interreligieux. Mais pour l'heure, on ouvre un nouveau volet actualité. Dans l'actualité cette semaine, à l'échelle internationale, il y a eu ce drame en Algérie. C'est la plus grosse catastrophe aérienne de l'histoire du pays. 257 personnes, la plupart des militaires de l'armée nationale, ont perdu la vie. L'avion dans lequel ils étaient s'est écrasé peu après avoir décollé de la base militaire de Boufarik. C'est à une trentaine de kilomètres au sud d'Alger. L'avion en question devait dans un premier temps rejoindre Tindouf. Une enquête a évidemment été ouverte pour déterminer les circonstances de cet accident.
Nous avons entendu une forte explosion et on a vu que la zone était couverte d'un épais brouillard. On a tout de suite compris que c'était un accident d'avion et pas un accident de voiture. Quand on est arrivé sur les lieux, on a vu des corps partout. C'est un désastre.
De nombreux chefs d'État ont apporté leur soutien à l'Algérie, la Palestine, la France, la Tunisie, la Turquie, le Sénégal ou encore la Russie. Tous ont fait part de leur vive émotion. Au cœur de l'actualité internationale aussi cette semaine, il y a cette situation à Gaza. Cela fait 2 semaines maintenant que les Palestiniens sont mobilisés pour la marche du grand retour sur leur terre. Depuis le début de leur mobilisation, 32 Palestiniens ont été tués, plus de 1700 autres blessés par l'armée israélienne. Un journaliste a également perdu la vie. Il s'appelait Yasser Murtadja. Il avait 30 ans. Il était père d'un jeune bébé. Il couvrait cette manifestation et portait pourtant un gilet presse qui était très voyant, mais a été pris pour cible par Tel Aviv. La France a reçu la visite cette semaine du prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman. Visite officielle, rencontre évidemment avec Emmanuel Macron et discussion politique géostratégique. Je vous propose d'écouter un extrait de leur conférence de presse commune.
En France, il y a 2 façons de faire avec un pays. Soit on signe des gros contrats et on dit au président de la République « Vous avez oublié vos principes pour signer des gros contrats ». Soit on ne signe pas des gros contrats et on dit au président de la République « Vous n'existez donc pas vis-à-vis de ce pays parce que vous n'avez pas signé de gros contrats ». Il y a une troisième voie, là aussi, qui est d'abord d'avoir une stratégie commune, de la partager, de partager des accords et des désaccords dans cette stratégie et de faire que la relation qu'on construit soit conforme dans la durée avec celle-ci. C'est la méthode que nous avons décidé d'adopter. Elle repose sur les 4 piliers sur lesquels je veux revenir. D'abord un pilier politique. Nous avons, je crois pouvoir le dire, une volonté commune de lutter activement contre toutes les formes de terrorisme. C'est d'ailleurs pour cela que l'Arabie Saoudite a joué un rôle extrêmement important suite à nos échanges dans le cadre du small group que nous avons élaboré et dans la construction, avec plusieurs partenaires de la région, d'un accord inclusif pour la Syrie, travail que nous allons poursuivre ensemble dans les prochaines semaines.
Et au bout du compte, 19 accords économiques à hauteur de 14,5 milliards d'euros ont été signés. Le prince héritier a lui aussi été visé pile lors de sa venue à Paris par une plainte. Une plainte avec constitution de partie civile déposée auprès de magistrats du pôle de tribunal de grande instance de Paris spécialisé dans les crimes de guerre. L'homme fort du régime saoudien est soupçonné et accusé de complicité d'actes de torture pour son rôle joué dans la guerre contre les rebelles houthis au Yémen. Explication de cette plainte avec Joseph Bréham, c'est l'avocat qui représente l'ONG yéménite à l'origine de cette plainte.
En nous fondant sur les attaques indiscriminées contre les civils, je fais donc référence au blocus imposé par les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite au Yémen. Je fais référence au bombardement d'hôpitaux, au bombardement de mariages, au bombardement de marchés effectués par l'aviation saoudienne, qui sont considérés comme des attaques indiscriminées. Je fais référence à l'utilisation d'armes à sous-munitions par l'Arabie saoudite. Tout cela peut être caractérisé comme des actes de torture.
On ouvre un volet Syrie à présent et les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU ne parviennent pas à se mettre d'accord. Veto russe. Du même temps, Donald Trump, de son côté, menace Vladimir Poutine et Bachar al-Assad d'intervenir militairement. Et ce, après les soupçons d'une attaque à l'arme chimique qui aurait été menée par le régime syrien. Pour l'heure, côté diplomatie française, pas de décision prise. Emmanuel Macron doit prochainement trancher. Une personnalité politique française, elle en tout cas, sait déjà ce qu'elle aurait fait. Elle avait d'ailleurs plaidé pour une intervention militaire en Syrie avant finalement de se rétracter. Vous l'aurez peut-être deviné, il s'agit de François Hollande. L'ancien président était l'invité du 20h de France 2 cette semaine et il s'est donc exprimé sur ce sujet.
Des armes chimiques ont été utilisées, ce n'est pas niable. Et l'utilisation de ces armes, c'est le régime. Il n'y a pas d'autre hypothèse. Parce que le discours russe et syrien, qui voudraient que ce soit les opposants qui se soient eux-mêmes mis du chlore et du gaz sarin sur leur visage pour susciter une réaction internationale, c'est un scénario qui, hélas, rappelle d'autres épisodes de notre histoire humaine. Donc, il y a une frappe chimique, il doit y avoir une réaction de la communauté internationale. Le Conseil de sécurité, c'est la 12e fois que la Russie pose son veto, ne peut pas donner, c'est dommage, une légalité internationale.
Donc mais
je soutiendrai,
Paris et Washington...
je soutiendrai toutes les réactions, y compris militaires, parce que ce qui a été commis en Syrie est inadmissible et ne doit pas être sans réponse.
Il s'exprimait sur France 2 à l'occasion de son dernier livre, un roman sur ses années passées en politique. Et puis rapidement, avant la pause, un mot de football mondial 2026. Le Maroc, qui a déposé son dossier de candidature, continue son opération séduction. Objectif pour Rabat, récolter la majorité des voix des fédérations pour pouvoir organiser cette édition du mondial. Elle pourra compter de façon officielle, c'est sûr, c'est tombé dans la semaine, sur l'Algérie, la Palestine, la France entre autres, et finalement plus de 100 fédérations ont d'ores et déjà annoncé qu'elles soutiendraient la candidature africaine. Une candidature africaine face, on le rappelle, à un trio Mexique, États-Unis, Canada.
Il y a une équipe de 80 experts qui a travaillé sur tous les plans et donc nous avons présenté un dossier que nous considérons aux normes internationales. Maintenant, le process passe à l'étape suivante, c'est qu'il y a une task force qui a été mise en place par la FIFA, une équipe interne de la FIFA, qui va valider ou invalider les deux candidatures pour les présenter ou non le 13 juin au Congrès pour le vote. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. Nous sommes très contents d'avoir respecté les délais et nous sommes rentrés complètement dans la stratégie qui nous a été tracée par Sa Majesté, d'avoir un dossier techniquement professionnel présenté sans pour autant changer quoi que ce soit au niveau de la stratégie du Royaume, mais d'adapter complètement les besoins de la FIFA à notre stratégie.
On marque une nouvelle pause. Dans un instant, on attaque notre partie Vivre Ensemble. Ne bougez surtout pas.
Le grand déballage revient dans un instant. 18h, 20h, le grand déballage. Delphine Thébault.
Merci d'écouter Beurre FM et pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes ensemble jusque 20h. Vous écoutez Le Grand Déballage, une émission un petit peu spéciale cette semaine. Adil Farkan, mon collègue, m'a laissé les rênes de cette émission et c'est une émission qui est marquée par le vivre ensemble. À 19h, vous aurez le plaisir d'écouter une émission spéciale sur le sujet. Elle a déjà été diffusée sur les ondes de Beurre FM Rouen. Elle a été montée en partenariat avec RCF Haute-Normandie. Et pour introduire ces notions d'écoute, de partage, de vivre ensemble qui vont être évoqués la prochaine heure, et bien quelques infos qui cette semaine nous ont donné du baume au cœur, toutes placées sous le signe de la solidarité. Il y a eu l'histoire cette semaine de ce véritable héros, Kader Salmi. Il a 28 ans. Il est arrivé d'Algérie il y a 4 ans et il vit aujourd'hui avec sa femme à Montreuil en Seine-Saint-Denis. C'est le Bondy Blog qui a pour la première fois raconté son histoire. Une histoire qui aurait bien mérité de faire le tour des médias, qui aurait mérité d'être racontée, diffusée pour expliquer tant cet homme a été courageux et plein de bravoure, mais pour finalement rien. Ça s'est passé au mois de février dernier. Il est rentré dans son immeuble un soir de semaine. semaine, un peu tard, et a été surpris par la situation puisqu'un incendie s'était déclaré dans son bâtiment. Cet électricien a donc immédiatement appelé les pompiers. Il a porté secours à sa femme avant de nouveau de rentrer dans l'immeuble en feu. Il explique « Je ne pouvais pas laisser tous ces gens périr dans les flammes ». Alors, il a frappé à toutes les portes, une à une, et a ainsi pu sauver la vie de 19 de ses voisins, dont 7 enfants. Une histoire, celle d'un véritable héros qui n'a donc pas été largement relayé. La mairie sait ce qu'il s'est passé, mais ils ne m'ont pas contacté. Je n'ai pas aidé tous ces gens pour recevoir des félicitations, mais c'est vrai qu'un appel du maire m'aurait tout de même fait plaisir. Voilà ce qu'a déclaré Kader Salmi. Un appel à la solidarité lancé du côté de Noisy-le-Sec, en Seine-Saint-Denis, cette semaine. Un appel lancé par une professeure d'anglais qui rêve d'emmener ses élèves aux États-Unis. Elle était l'invitée de la matinale cette semaine et je vous propose de l'écouter.
Mais pour l'heure, nous avons une invitée, Delphine. Il s'agit de Viam Berouma.
Exactement, elle est professeure d'anglais au collège Jacques Prévert, il est à Noisy-le-Sec en Seine-Saint-Denis, et elle a lancé avec d'autres de ses collègues professeurs une cagnotte en ligne pour un voyage scolaire, vrai coup de cœur ici à Beurre FM, un voyage scolaire pour emmener donc 41 de ses élèves de 3e à New York, un voyage scolaire avec un thème particulier. William est avec nous, bonjour William.
Bonjour.
Alors voilà, donc le voyage scolaire, donc direction New York avec un thème particulier, immigration et citoyenneté. Pourquoi est-ce que vous avez envie d'emmener vos élèves de 3e là-bas particulièrement ?
Moi, j'ai envie de les emmener là-bas tout simplement parce que c'est un rêve déjà pour plein d'élèves. Faut savoir que les élèves du 93 voyagent très peu. Et quand ils voyagent, on a tendance à les emmener en Seine-Saint-Denis, voilà, si on peut appeler ça des voyages. Et cette problématique-là, en tout cas de l'immigration de la citoyenneté, c'est des problématiques qui les touchent directement. Ça les concerne, ils se sentent voilà, directement visés par ces questions-là. Et moi, j'aimerais qu'ils aillent là-bas, comparer les différentes visions, les différentes positions, et voir un peu voilà comment ça se passe dans un autre pays. C'est très propre aux États-Unis parce que c'est quand même le pays des droits civiques, c'est quand même le pays où il y a eu des figures emblématiques qui se sont battues pour leur citoyenneté, qui étaient descendants d'immigrés et qui ont réussi à obtenir des droits qu'ils n'avaient pas au départ.
Donc en fait, vous dressez un espèce de parallèle pour leur faire prendre conscience de certaines choses. C'est ça, en choisissant les États-Unis, et pas même si on choisit un voyage scolaire, on pourrait se dire, si c'est avec la professeure d'anglais, pourquoi ne pas aller à Londres, par exemple. Là, ça vous semble très pertinent, particulièrement pour vos élèves.
Tout à fait, oui. La question revient souvent, en fait. En général, on a tendance à dire, si c'est de l'anglais, ils ont qu'à aller dans un pays anglophone, point. Donc pourquoi pas Londres? En réalité, les problématiques sont pas les mêmes, mais d'emmener les élèves à Londres, c'est pas du tout les mêmes problématiques que de les emmener à New York. Effectivement, il n'y a pas que la question de l'anglais qui se pose, il y a aussi la question de la culture, de l'histoire du pays et de comment le pays s'est construit. Alors c'est vrai qu'à Londres, il y a une forte immigration et c'est aussi un pays qui s'est construit grâce à son immigration. Mais ce qui reste quand même emblématique d'une construction grâce à l'immigration, c'est New York, c'est les États-Unis, qui sont un pays totalement en fait d'immigrés.
Alors donc, si on parle de ce voyage aussi, c'est parce que vous avez besoin d'aide pour le financer, puisque vous avez, vous me coupez si je me trompe, demandé 250 € aux élèves pour pouvoir partir, mais évidemment partir à New York, ça ne coûte pas 250 € par personne. En réalité, vous avez estimé le coût par tête 1340 €. Évidemment, vous avez pu avoir une subvention du département, mais on le sait, les subventions sont réduites. Une subvention de 20 000 €, ce n'est pas suffisant. Donc vous mobilisez avec, vous faites intégrer évidemment partie prenante vos élèves via une vidéo que vous avez publiée en ligne et puis vous lancez une cagnotte. Est-ce que vous pouvez nous donner tous les détails?
Oui, tout à fait. Bon, les chiffres sont tout à fait exacts, bravo.
j'ai planché.
Bravo, c'est bien. Alors, les élèves payent effectivement 250 €. C'est ce qui nous a semblé être le plus raisonnable pour que le voyage soit accessible à tout le monde. 250 € pour une semaine aux États-Unis, effectivement, c'est pas très cher au vu du coût réel, parce que le voyage revient en réalité à 1340 €, enfin la somme que vous avez dit. Et du coup, ce qui fait que on doit trouver l'argent ailleurs pour pouvoir aider ces élèves à partir. Effectivement, on a reçu une subvention de 20 000 € du département et on a des petites aides du FSE du collège, mais tout ça, c'est des chiffres qui montent pas très haut. Avec les élèves, on monte des actions pour qu'ils puissent récolter de l'argent. Mais pareil, en fait, tout ce qui est vente de gâteaux, etc., ça va rapporter 200, 300 euros. On table sur ça. Mais malheureusement, il reste une grosse somme à trouver. Et c'est pour ça qu'avec les élèves, on s'est dit, pourquoi pas monter une cagnotte. Il faut savoir que c'est l'initiative des élèves. Alors, c'est pas la mienne, c'est les élèves qui m'ont dit, madame, on n'a qu'à monter une cagnotte et on voit ce que ça donne. Et si on y arrive, bah, tant mieux. Et si on n'y arrive pas, tant pis. Je tiens quand même juste à préciser la maturité de mes élèves, parce que moi, j'étais vraiment, je me disais, non, mais en fait, laissons tomber et tout. Et puis, ils sont hyper matures. Ils sont dans une démarche de dire, non, mais madame, on essaye, on y va. Et puis, si ça marche pas, c'est pas grave, on aura essayé. Donc, on a lancé la cagnotte et ils étaient partants pour faire cette vidéo-là et pour expliquer un peu leur situation. Voilà. J'invite les gens à aller voir la vidéo. Elle est sur la cagnotte Ulule. C'est une vidéo de 8 minutes et tout est expliqué dedans.
Alors voilà, je vais mettre, de toute façon, tout sera mis sur le site internet de Beurre FM, sur la page Facebook également. C'est une cagnotte Ulule. Alors, on peut le dire, hein, ça cartonne, il reste 26 jours et vous êtes déjà à 40% du financement, quasiment 39% pour être précise. Sur les 12 000 euros dont vous avez besoin, il y en a 4 735 avec 134 contributeurs. Donc ça part quand même très très bien et on espère que cela va continuer. Donc on va tout mettre sur le site de Beurre FM pour que vous puissiez avoir un maximum de soutien. Donc on le rappelle, hein, c'est pour un voyage scolaire pour les élèves de 3e du collège Jacques Prévert à Noisy-le-Sec. Merci beaucoup Madame Berrouma d'avoir été avec nous au téléphone ce matin.
Merci à vous, je vous remercie beaucoup.
Et merci
donc,
bien,
je le rappelle, on mettra tout sur le site internet et la page Facebook pour emmener ces élèves de 3e vivre leur rêve, aller aux États-Unis pour ce voyage scolaire sur le thème de l'immigration et de la citoyenneté. Et du coup, autre coup de pouce cette semaine au fur et à mesure des jours pour ces élèves pour qu'ils parviennent à récupérer d'autres fonds. Un maillot de Karim Benzema, l'attaquant du Real Madrid, dédicacé, a été mis aux enchères. Prix de départ 60 euros, mais très vite, les enchères ont grimpé aux alentours de 300 euros. Tous les fonds seront reversés à ces élèves de 3e. Et toujours en milieu scolaire, c'est une belle histoire aussi qui est apparue cette semaine sur les réseaux sociaux, racontée par un professeur très actif sur Twitter. Son pseudo, c'est Rachid L'Instit. Il a raconté un moment superbe dans le RER alors qu'il se rendait à Paris avec l'une de ses classes. Il a évoqué une rencontre un petit peu tendue entre une femme âgée et ses jeunes. Elle leur reprochait de faire trop de bruit. Et puis, comme si la vie était bien faite, quelques minutes plus tard, une autre vieille femme est entrée dans le wagon. Elle est jeune fille de ses étudiantes. Se sont toutes levées pour lui laisser sa place pour qu'elle s'assoie. Et s'en est suivi un véritable échange de partage et de bienveillance. Cette femme leur a dit qu'elles étaient magnifiques, brillantes. Elle leur a raconté elle son enfance, son adolescence, sa vie de collégienne aussi, son amour pour et sa passion pour Antigone, cette pièce que ces jeunes filles étudiaient justement en ce moment au collège. Bref, ce professeur Rachid L'Instit a tenu sur Twitter dans un long message à saluer cette vieille femme et à la remercier pour sa bienveillance et d'avoir parlé à ces jeunes étudiantes de SECPA comme des élèves ordinaires et ça lui a fait chaud au cœur. C'était une belle histoire de solidarité cette semaine. Et puis enfin, et pour terminer, juste avant que vous retrouviez votre émission spéciale interreligieuse sur le vivre ensemble, une nouvelle. Ce serait le premier projet du genre en Europe, à Berlin, en Allemagne. La House of One doit voir le jour d'ici trois ans. Il s'agira d'un lieu qui est censé réunir en son sein une église, une mosquée et une synagogue. Chacune des trois religions monothéistes aurait bien évidemment leur propre lieu de prière. L'idée serait aussi d'avoir en son centre une salle commune à tous pour échanger idées et opinions. Les travaux doivent débuter l'année prochaine. Il y a une cagnotte en ligne de financement qui est lancée. Coût du projet 12 millions d'euros. Et pour l'instant, les organisateurs en sont presque à 9 millions d'euros récoltés grâce aux dons. On marque une nouvelle pause. Vous êtes sur Beurre FM. Vous écoutez Le Grand Déballage jusqu'à 20h.
Le Grand Déballage revient dans un instant. 18h, 20h, Le Grand Déballage, Delphine Thébault.
Beurre FM, merci d'être à l'écoute. Place désormais à une émission tout à fait spéciale. Elle a été diffusée sur Beurre FM Rouen, réalisée en partenariat avec RCF Haute-Normandie. Au menu, dialogue interreligieux entre chrétiens et musulmans et mise en lumière des initiatives prises pour le vivre ensemble. Une émission animée par Mohand Marouf et Pauline Noack-Fressigne. Bonne écoute.
Bienvenue à vous tous, auditeurs de Beurre FM et de RCF. pour une émission coproduite par nos deux radios sur le thème du vivre ensemble. Je suis Pauline Noack, directrice de RCF Haute-Normandie, et c'est Mohand Marouf, dirigeant de Beurre FM à Rouen, qui animera avec moi ces 45 minutes.
À l'origine de cette émission, une rencontre, justement, celle de Pauline Noack avec le père Pierre Bellache, qui est responsable diocésain pour les relations avec les musulmans, qui connaît bien Beurre FM. Il a notamment créé les Cafés de l'Amitié avec Khalid Jelari, qui lui est bénévole dans notre station, à savoir Beurre FM. Pierre et Khalid ont proposé à Pauline de monter une émission coproduite par les deux radios, une émission qui ferait découvrir des initiatives de paix et de fraternité qui se passent à côté de chez nous grâce à des gens comme nous.
Exactement, une émission produite par deux radios locales et confessionnelles, l'une musulmane, l'autre chrétienne, en signe de cette fraternité qui habite sincèrement tous ceux qui ont préparé ce moment et bien d'autres personnes.
Cette émission va comporter trois parties, chère Pauline. On va démarrer avec l'été de l'amitié et Café de l'amitié. Pour nous en parler, nous sommes avec le père Pierre Bellache, curé de la paroisse Saint-Sever Saint-Clément, comme je l'ai dit au début d'émission, délégué diocésain pour les relations avec les musulmans. Mon père, bonjour.
Bonjour.
Également avec Bachar Al-Sayadi, imam conférencier, vice-président de l'Union des musulmans de Rouen et de la mosquée de Rouen Al-Kawthar. Bonjour Bachar.
Bonjour Mohand.
Et Pierre Declerc, organisateur d'été et café de l'amitié. Pierre Declerc, bonjour.
Bonjour.
Première question, on va commencer par l'été de l'amitié parce qu'il concerne les communautés religieuses. Pierre Bellache, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu la genèse de c'était de l'amitié?
Il y a toujours une tradition de rencontre entre chrétiens et musulmans, mais si on fait les choses d'une manière trop formelle, on s'aperçoit que ça attire moins de monde et c'est finalement moins, ça permet moins aux gens de se rencontrer. Donc c'est pour ça qu'on a souhaité avec Bachar faire quelque chose qui soit beaucoup plus convivial et de fait ça a bien marché puisque nos côtés de l'amitié rassemblent 50, 60, presque 70 personnes.
Pierre Declerc, vous organisez l'été de l'amitié, notamment avec d'autres, mais comment est-ce que vous avez rencontré Pierre Bellache et Bachar?
Alors j'ai d'abord rencontré Pierre parce que je suis dans la paroisse de Saint-Clément. Il y avait longtemps que j'avais envie de rencontrer des musulmans. Pierre a parlé de dialogue interreligieux et là je me suis lancé.
Donc par curiosité?
Non, il y avait longtemps que j'avais ce désir-là.
Vous avez rencontré le père Bellache dans une paroisse, donc vous êtes
oui,
chrétien.
Oui.
Vous aviez envie d'aller découvrir une autre foi et une autre culture?
J'avais surtout envie de rencontrer les musulmans dans leurs différences. Il y a toute une histoire familiale qui fait que j'ai entendu parler des musulmans toute mon enfance. J'ai eu envie de les rencontrer et ça m'a toujours semblé difficile de les rencontrer. J'aurais jamais osé entrer dans une mosquée, par exemple. J'avais besoin de qu'on me mette le pied à l'étrier pour démarrer pour ces rencontres avec des musulmans.
Alors justement, docteur Bachar Al-Sayadi, vous connaissez Pierre Bellache depuis plusieurs années maintenant. La relation n'est plus à démontrer pour les communautés religieuses de la région. Et comment avez-vous adhéré justement à ce concept de tête de l'amitié, puisque récemment vous en avez même organisé un toujours à cette paroisse de Saint-Clément?
Donc je connais Pierre depuis un certain moment, on travaille ensemble au comité interconfessionnel qui se passe à Rouen avec l'archevêque et les diverses religions. L'idée des thés de l'amitié, c'est la continuité du dialogue interreligieux qui se passe. Donc l'idée, elle est venue de faire quelque chose entre la paroisse Rouen-Gauche-Saint-Sever et la mosquée de Rouen et le Kawthar. Donc c'est dans le but de continuer un dialogue, de décomplexer nos différences et de faire quelque chose qui est informel, qui est sympa. Mais quand même, on a mis quelques conditions sans les mettre. Hein. C'est toujours dans le débat, le respect d'autrui et de la diversité. Donc on se respecte, il y a de l'amitié, de l'affect entre nous. La deuxième condition, qu'on est sincère dans nos relations, qu'on dit la vérité, il n'y a pas la langue de bois. L'idée, ce n'est pas qu'on se mette d'accord sur tous les points. On sait qu'on a des différences parce que nos religions sont différentes sur certains points. Et surtout, nous, dans le dialogue, on aime bien avoir des compétences, c'est-à-dire des gens qui savent ce qu'ils disent. Et là, les gens, moi, je vois que dans le thé de l'amitié, les gens, ils jouent ensemble, on fait parfois un quiz, on discute. Mais quand on débat sur un sujet, c'est un peu sérieux. C'est-à-dire, il y a quand même du contenu, c'est ce qu'on a remarqué au dernier thé de l'amitié, quand on a parlé de la Vierge Sainte Marie, sa place dans les deux religions. Moi, je pense que les gens, ils ont appris quelque chose, ils ont eu du contenu, pas seulement qu'ils étaient ensemble.
La Vierge Marie est connue des musulmans et a une place dans la...
Ah bien sûr, elle a une place principale, c'est ce qu'on a traité au thé de l'amitié. Il y a un grand chapitre dans le Coran qui parle de la Sainte Marie. C'est une grande pieuse, c'est une femme décrite par le prophète Mohammed comme une des rares femmes parfaites, parce que c'est très difficile d'être parfait, homme ou femme.
Pierre Bellage, qui est-ce qui assiste à ces thés de l'amitié?
Alors par définition, vraiment les thés de l'amitié sont ouverts à tous ceux qui le veulent. On cherche à ce que ce soit très accessible et en même temps, comme le disait Bachar, que voilà, on se moque pas des gens, on essaie de leur apporter vraiment du contenu et du contenu officiel, pas simplement ce qu'on pense nous. Et on a la joie de voir qu'il y a des gens un peu de différents âges, de différents niveaux de culture qui s'intéressent au thé. Je pense parce que justement, ce sont une formule très très conviviale. Moi, ça, je trouve que ça marche bien parce que à chaque fois, on arrive à faire connaissance avec des nouvelles structures. Je parlais avec une dame qui fait partie d'une organisation musulmane, participation et spiritualité musulmane, je crois. Ça développe à chaque fois ma connaissance un petit peu de tout ce réseau.
Mon père, il faut quand même préciser aux auditeurs de Beurre FM et de RCF que les thés de l'amitié sont différents des cafés de l'amitié puisque ceux-ci, par définition, s'adresse aux religions, alors que le café, lui, se passe justement dans un café où on rencontre le commun des mortels avec qui on discute de tous les sujets de société.
Et pas forcément religieux, du
coup. Exactement.
Voilà, oui, effectivement, quand je dis que c'est ouvert à tous, c'était bien évidemment pour l'été de l'amitié, mais c'est vrai que ça a une spécificité puisqu'on invite particulièrement dans nos communautés, donc a priori d'abord les fidèles, mais bien sûr tout le monde peut venir. Les cafés de l'amitié, effectivement, s'adressent plus d'une manière inconfessionnelle, je dirais, voilà, à tous ceux et celles qui habitent dans notre coin et qui ont envie de découvrir simplement l'autre.
Alors Pierre de Clercq, vous qui les organisez, comment se passent les cafés de l'amitié? Comment est-ce que vous invitez? Et comment est-ce que vous accueillez? Et ensuite, quels en sont les fruits?
Comment on les invite? C'est un peu le hasard, c'est le bouche à oreille, je crois, vraiment. Oui, c'est le bouche à oreille, c'est les gens du quartier. L'idée, c'est que les gens se rencontrent, s'expriment, se livrent un peu. On est dans un bistrot, on amène des gâteaux. Il y en a un qui a pensé à apporter avec des copains qui jouent de la musique. C'est vraiment tout simple.
Quels en sont les fruits?
Les fruits, alors là, les fruits, c'est extraordinaire. Au début, bien sûr, tout le monde est un peu intimidé. Et puis très vite, ça démarre, ça discute. Et puis, on sent qu'il y a des échanges, beaucoup d'échanges intergénérationnels, les grands-mères.
Les gens se découvrent.
Et
dans tous les sens, hein, finalement.
Et alors, on a l'impression que les barrières tombent. Parce que, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs.
D'habitude, même s'il y a une divergence d'opinion, parce qu'on le sent que dans les cafés, il y a quand même.
Vous en avez vécu, Monde.
Puisque sur le dernier café, donc, on sent quand même ce côté, non pas d'antagoniste, mais de vouloir imposer son point de vue. Mais la force également de, notamment de Pierre Bellage, c'est de laisser parler la personne, de l'écouter. Ensuite, même si on n'est pas d'accord, on propose quelque chose.
Et on s'écoute.
On s'écoute, surtout.
On s'écoute et donc on accueille donc le point de vue de l'autre et chacun progresse.
Moi, je dirais surtout que ce qui est intéressant, c'est que justement, on n'est pas dépendant des fruits. Moi, je plains parfois, par exemple, les hommes politiques qui sont quasiment obligés d'avoir des résultats tout de suite. Il y a la pression de l'opinion. Nous, je dirais d'une certaine manière, on fait ça gratuitement et on a la foi, c'est-à-dire qu'on sait que ça portera du fruit. Lequel, on ne sait pas, mais voilà, donc on n'a pas de pression particulière, on fait simplement en sorte que les gens se rencontrent, et après il se passe ce qui se passera.
Alors une précision Pauline, hein, parce que c'est important, ces rencontres, qu'elles soient à la fois thé ou café, je pense que là, le docteur Bachar Al-Sayedi va nous le préciser, ce sont des moments pris sur leur temps libre à titre bénévole. Je rappelle quand même que ce sont des réunions gratuites. Elles rassemblent des populations de tout horizon. Et l'essentiel, c'est tout simplement de s'ouvrir, de dialoguer, n'est-ce pas, docteur?
Oui, dans tout le cas, le dialogue, l'idée chez nous, les musulmans, elle est un peu théologique. Elle est fondée sur des versets coraniques que Dieu il a fait, dans le sens du verset, que les gens soient différents au niveau race, au niveau couleur, langue, etc. Et Dieu nous demande dans le Coran de vivre ensemble et de s'entre-connaître pour s'entre-aider. C'est pour que l'humanité évolue. Et dans un autre verset, que si Dieu avait voulu, il aurait pu faire que les gens soient identiques. Donc c'est en se basant sur ce concept que le vivre ensemble dans la diversité, le débat dans la diversité, donc ça va éliminer les préjugés, ça va nous laisser vivre ensemble dans notre diversité et dans nos convictions. Et on le sent vraiment que ce n'est pas quelque chose de folklorique, c'est ça ce qui est important, parce que parfois, on veut faire du vivre ensemble des éléments folkloriques, mettre des gens différents ensemble, papoter un peu, puis partir. Non, ce n'est pas ça, c'est vraiment qu'il y a une affinité, qu'il y a un respect, qu'il y a une amitié et une volonté d'avancer et de vivre ensemble, et on fait tellement de choses. Et moi, j'ai une remarque, parce que au comité interconfessionnel, il y a pas mal de religieux, quand le politique nous voit, parce qu'on les invite parfois, comme les vœux début 2018, je pense qu'ils nous regardent, alors que nous, on plaisante ensemble, on rigole, on se serre la main, on prend des photos, c'est-à-dire, ils voient une affinité entre les religieux. Bah, enfin, la religion n'est pas un facteur de déstabilité sociale du tout, hein. Les religions ensemble, ils peuvent vivre en paix, avec amitié, et c'est un facteur même de stabilité et qu'on peut avancer avec ça. Il faut qu'on rassurer tout le monde.
Père Bellache, comment est-ce que la Bible invite les chrétiens à se vivre ensemble et à ce dialogue?
Déjà, voilà, moi, c'est ce que j'apprécie dans le contact avec Bachar, c'est qu'on, tu vois, on échange toujours en approfondissant et en montrant qu'effectivement, comme tu dis, c'est pas de la surface, c'est vraiment profond et qu'on est habité justement par notre foi. Alors, évidemment, pour nous, les chrétiens, ça se fonde sur ce Dieu qu'on dit Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, Dieu est dialogue en lui-même. C'est le pape Paul VI qui le disait dans sa première encyclique. L'Église se fait dialogue, l'Église se fait conversation. Voilà. Pour nous, ce serait complètement contraire à ce qu'on est de ne pas dialoguer. Et ça, je crois que c'est important que les gens le comprennent bien. Quand on fait du dialogue, on n'est pas des déviants par rapport à notre religion. Et tu l'as dit, toi, avec d'autres convictions. Oui, oui. On est, au contraire, profondément ancré dans dans notre tradition et dans notre foi.
Exactement.
Mon père, puisque maintenant les titres de l'amitié fonctionne bien, on voudrait connaître les prochains.
Donc oui, effectivement, dimanche 18 mars, on a eu c'était le dernier thé de l'amitié qu'on a organisé. On va pas s'arrêter là, hein, mais alors, on cherche toujours à ce qu'il y ait un petit coup de reviens-y, c'est-à-dire on va pas en faire toutes les semaines parce que ça s'épuiserait. Et puis, on va travailler ensemble avec Bachar et puis d'autres pour que peut-être ça puisse exister aussi à différents endroits, voilà, puisque c'est une formule qui porte des fruits.
Est-ce qu'on a déjà la date du prochain thé et du prochain café de l'amitié?
Je pense qu'on fera un tous les 2-3 mois, à peu près, le thé de l'amitié. Et puis, il y a les cafés de l'amitié à côté, bien sûr, mais les thés de l'amitié, sauf si tu veux qu'on accélère, Pierre, on y va. Hein.
À la grâce de Dieu. Hein.
Voilà. Et où est-ce qu'on trouve l'information?
Alors l'information, on la trouve... Alors Bachar est un grand communicant, moi je j'ai un peu plus de mal avec ça.
Au moins à la paroisse et à la mosquée, puis il y a les SMS et les réseaux sociaux.
On mettra tout ça dans le podcast de l'émission.
Mmh. Fin de cette partie, je tiens d'abord à remercier le père Pierre Bellache, également Pierre Duclair, ainsi que le docteur Bachar Al-Sayedi d'avoir participé à cette émission. Vivre tous ensemble, c'est la thématique, ma chère Pauline. On se retrouve dans un instant après cette pause musicale.
Le grand déballage revient dans un instant. 18h, 20h, le grand déballage. Delphine Desvaux.
Beurre FM, merci d'être à l'écoute du Grand Déballage. Nous sommes en pleine écoute d'une émission tout à fait spéciale. Deuxième partie de cette émission qui a été diffusée sur Beurre FM Rouen, réalisée en partenariat avec RCF Haute-Normandie. Au menu de cette émission, le dialogue interreligieux entre chrétiens et musulmans et le vivre ensemble. C'est Mohand Marouf et Pauline Noack-Fressing qui l'animent. Bonne écoute.
Sur cette deuxième partie d'émission un peu spéciale, hein, je vous le rappelle, coproduite par Beurre FM et RCF sur le thème du vivre ensemble dans l'agglomération de Rouen, nous allons maintenant creuser la question du dialogue interreligieux avec deux invités. Henri Couturier, qui a dirigé durant 25 ans la librairie La Procure de Rouen, aujourd'hui membre de l'ACRIP, Association culturelle et religieuse intercommunautaire pour la paix, et en présence de Abdelkader Bekeda, qui a été président de la CRIP et est toujours très engagé dans les démarches associatives qui favorisent le dialogue interreligieux et interculturel. Bonjour Henri.
Bonjour Pauline.
Bonjour Abdelkader.
Bonjour Pauline.
Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous définir un peu mieux la CRIP, Henri Couturier?
En 1986, le pape Jean-Paul II a décidé d'inviter toutes les religions à venir prier
pour la paix à Assise. Et dans cette mouvance, une année après, des Rouennais, M. Rouhani, un Baha'i, une religion qui vient de Perse, d'Iran plutôt, et Jean Morisot, un chrétien, ont voulu créer une association de dialogue interreligieux pour réunir juifs, chrétiens, musulmans et autres religions, et des Baha'is évidemment, puisque l'un était fondateur. Nous avons des rencontres régulières pour échanger, pour apprendre à nous connaître. L'année dernière, nous avons fêté le 30e anniversaire de ce rassemblement d'Assise par une marche à travers les rues de Rouen, qui nous a conduit de 200 personnes de la mosquée au temple protestant, à la synagogue et enfin à la cathédrale, un grand moment de fraternité. Nous marchons ensemble pour vivre ensemble et pour nous connaître entre les religions.
Abdelkader Bekeda, on sait que vous êtes un militant actif, vous êtes très présent au niveau des institutions également. Avec la CRIP et ses 30 ans d'existence, c'est quand même un temps fort que cette marche. Parce que vous avez voulu démontrer, comme l'a précisé Henri Couturier, vous êtes parti de rien pour aujourd'hui installer dans la durée la CRIP.
Exactement. Au final, les gens sont prêts pour le vivre ensemble, tout simplement. Donc nous, on est là pour organiser, coordonner justement, mettre la mise en relation, le réseau, pour mener des actions en commun. Parce que les gens, voilà, sont déjà prêts. Donc on exploite tout simplement ce qui est faisable.
Et notre société a besoin de ces rencontres, évidemment.
Et en plus,
à cause de toutes les méfiances, voilà, et des peurs.
Oui. Exactement. Donc en fait, quand on lance une opération, une activité, on rencontre quasiment aucun souci. On retrouve toujours des ressources humaines et ça va vraiment de plus en plus. C'est-à-dire la dynamique, on voit qu'elle prend de plus en plus. Je donne juste l'exemple encore de la dernière marche. Quand j'ai fait la déclaration auprès de la préfecture pour la marche sur la voie publique, j'avais tout simplement déclaré au maximum 100 personnes. On était quasiment le triple. Vraiment, le terrain est là, les gens sont prêts. Il n'y a plus qu'à faire ensemble.
Par exemple, est-ce que les responsables politiques locaux vous voient les choses d'une manière favorable et accompagnent du mieux qu'ils peuvent les événements, les rassemblements que vous organisez, Abdelkader?
Et exactement, puisqu'en fait, même lors de la dernière marche et même un petit peu avant, on avait la visite du maire, on avait la visite de certains députés qui venaient nous serrer la main. Donc, ils se sentent même un peu plus concernés par ce qui se passe, entre guillemets, en bas, par la base populaire. Ils voient très bien que la dynamique est en train de prendre. On se sent soutenu.
Ce qui est extraordinaire, Pauline, et je vais poser la question à Henri, on sait que depuis 2015, la France a connu une vague de terrorisme foudroyant. Le problème est que nous sommes dans un état laïque, les religions ont été sollicitées pour faire cause commune. Comment peut-on expliquer ça? La laïcité avec le religieux. D'où l'intérêt du vivre ensemble, justement.
Je pense que les Français, les citoyens pensent que c'est nécessaire qu'on se rencontre. Les hommes politiques aussi, évidemment, ils sont prêts aussi à faire appel aux religions, même si quelquefois c'est un discours un peu contradictoire en disant est-ce que les religions ne seraient pas communautaristes et donc une espèce de menace.
Et je pense qu'il y a aussi une volonté de rétablir un certain équilibre. La France championne de la laïcité s'est peut-être rendue compte qu'elle a mis trop de côté ses forces spirituelles, ce qui font l'essence même de l'homme. Donc en niant vraiment, en mettant de côté ou en amoindrir l'essence même de l'homme, on se rend compte qu'il y a des petites problématiques sociales qui ressurgissent. Donc il faut vraiment remettre l'homme, son humanité, sa spiritualité au centre de la vie sociale. Et ça va tout simplement permettre d'apporter un peu plus d'harmonie dans la vie.
Abdelkader Bekeda, est-ce que vous avez abordé précisément la question justement de la laïcité dans une de vos rencontres? Et avec quelle conclusion?
Bien sûr, on a souvent ce thème, ce mot revient à chacune de nos réunions. Pour nous, voilà, la laïcité, c'est le terrain favorable, le meilleur terrain pour que la diversité puisse s'exprimer. On rencontre pas de difficultés. La laïcité, pour nous, c'est pas un mur qui est devant nous. Au contraire, on est là aussi pour déconstruire des clichés, puisque on a l'impression quand on entend le mot laïcité, c'est anti-religieux. Pas du tout. La laïcité, c'est un terrain neutre qui permet à toute diversité, toute communauté de pouvoir s'exprimer, tout simplement. Donc on le rappelle, oui.
Henri Couturier, comment s'organisent les réunions de la CRIP et qui assiste et quels sont également les événements auxquels vous participez? C'est très important que nos auditeurs le sachent, des deux radios, je précise.
On peut dire, nous avons une réunion générale de tous les adhérents de la CRIP deux ou trois fois par an, mais aussi nous invitons dans nos rencontres, on a discuté sur des thèmes religieux comme la laïcité, la prière, le pèlerinage, la place des femmes, etc. Et puis, je voudrais d'abord rappeler les convictions, à mon avis, qui nous engagent à ce dialogue interreligieux. Je citerai un texte du pape François que je pense que toutes les religions pourraient signer. De nos jours, alors que les réseaux et les instruments de communication ont atteint un niveau de développement inédit, nous ressentons la nécessité de découvrir et de transmettre la mystique de vivre ensemble. J'aime bien les formules. De se mélanger de se rencontrer, de se prendre dans les bras, de se soutenir, de participer à cette marée un peu chaotique qu'est le monde aujourd'hui, qui peut se transformer en une véritable expérience de fraternité, en une caravane solidaire, en un saint pèlerinage. Formule est magnifique. Moi, j'aurais envie de parler aussi de mes relations. Kader pourrait parler des relations avec les chrétiens et les juifs. Moi, un petit mot sur les relations avec les musulmans. Le souvenir, le jour où Asma, une femme qui était à Rouen, est venue nous raconter son pèlerinage à la Mecque. Très émouvant. Le jour où Abdelkader Arbi, qui nous est venu nous parler de la prière, qui à l'époque était à Rouen et qui est maintenant l'aumônier général des armées françaises, nous a parlé de la prière, ce sont des moments où on dit, dans sa pratique de foi, dans le ramadan, dans la prière, je reconnais quelque chose de ma propre expérience. C'est différent, mais il y a une fraternité, il y a une espèce de communion spirituelle à travers les différences qui sont réelles, hein. Parce que comme chrétien, par exemple, j'acceptais pas très bien la façon, si on parle sur Jésus, si on dit que Jésus n'est pas mort sur la croix, évidemment.
Ça vous pose un petit problème.
Ça pose un problème. Voilà. Intéressant d'ailleurs, parce qu'il y a d'autres possibilités qui sont offertes à Rouen pour le dialogue interreligieux, et le comité interreligieux qui a été créé par l'archevêque de Rouen, où Pierre Bellache est très actif, la ville de Rouen propose au Centre communal d'action sociale un culte tour qui inviterait des gens de tous âges, de différents quartiers, à visiter différents lieux de culte pour connaître ces lieux, avoir une petite idée des religions, et puis que les gens se mélangent justement, qu'ils apprennent à se connaître, à travailler ensemble. De même, à la CRIP, il y a quelqu'un, l'un d'entre nous, qui n'est pas un chrétien, là, qui n'est pas un croyant, mais qui se dit un agnostique, mais un homme de conviction, qui propose d'inviter un petit groupe chez lui, par exemple, ou d'autres pour en faire autant, pour partager nos convictions.
Donc, effectivement, Pauline, on le voit, ce vivre ensemble concerne toutes les communautés, parce que je dirais que nous sommes aujourd'hui une communauté de destin. Il y a certes des différences d'appréciation au niveau des religions, mais nous avons tous un pays commun, un destin commun, parce que nous vivons sur ce territoire qui s'appelle la France, raison pour laquelle aujourd'hui, cette diversité reste un élément incontournable, non seulement pour la paix sociale, mais également pour le dialogue. Raison pour laquelle également je reviens avec Abdelkader Bekeda sur cette marche, est-ce qu'on peut l'appeler procession ? Peut-être que le mot procession indiquerait tout de suite religion, mais le fait de parler de marche de toutes les religions, s'arrêter à des temples, etc.
Une caravane solidaire.
Oui, voilà. Il y a des termes que vous utilisez qui veulent dire pour nous la même chose, mais au final, non. C'est juste des moments de rassemblement, Abdelkader.
Mouhand, je voulais juste ajouter à votre question. Justement, ces démarches-là qui sont très marquantes, comment est-ce qu'elles sont relayées par les médias ? Parce que les médias, ils sont friands de choses qui sortent un peu du commun. Ils se disent, oh tiens, ils se parlent finalement, les chrétiens, les musulmans, les juifs. Comment est-ce qu'ils ont relayé cet événement ? Est-ce qu'ils lui ont donné toute sa puissance, tout son rayonnement ?
J'ai pas trouvé, j'ai regardé justement les actualités juste après. Et donc, ils ont parlé, comme c'était juste une célébration des 30 ans d'Assises. Ils n'ont pas trop insisté sur la marche, sur la portée symbolique de la marche, qui rassemblait vraiment toutes les composantes de la société. Donc, ça a été très bref.
Oui, en fait, avec la nouvelle équipe qui anime actuellement la CRIP, avec le président Yves Garraudot, le vice-président Khalid Gerari, avec des gens, Yves Miou, le secrétaire, Abdelkader qui est présent là. Il y a une jeune équipe dynamique, la nouvelle génération, qui sont beaucoup plus à l'aise avec les médias, avec la radio. Ça va bouger.
Exactement.
Alors, on peut vraiment se réjouir. Et merci à Henri Couturier. Merci à Abdelkader Bekeda.
Oui,
tu veux rajouter quelque chose?
Exactement. Donc, par rapport à la marche de la paix, donc grâce à cette dynamique, on va annoncer qu'on veut mettre en place la première journée, le premier forum interreligieux à Rouen, fin septembre.
Fin septembre, un forum interreligieux.
Exactement, à Rouen. Et ça, c'est le grand projet à grande échéance.
D'accord.
Sinon, au mois de juillet, on va communiquer bientôt sur le site Facebook.
Le dimanche 1er juillet.
Oui, exactement. Dimanche 1er juillet. Grand rassemblement festif.
Un repas
ensemble avec, exactement, toujours ouvert à tous. On va préciser justement le programme d'ici quelques semaines sur le site Facebook.
Et donc, nos deux radios. 1er juillet prochain. Absolument. Merci. Nos deux radios relayeront les informations pratiques, tous les détails pour que chacun puisse vous rejoindre ce jour-là, le 1er juillet. Merci pour tout ce que vous faites et qui permet aux Français de mieux se prendre dans les bras. Une deuxième pause musicale avec une version un peu particulière de la chanson que vous connaissez tous, Être né quelque part.
Merci Paul Mouhand.
يفريني مولانا كدوان سيدي فروري يونو يفريني زنقا يزيل باري فنريون داكا اكنا دي بدو تشلي يلوان دايف كازار يلوان دايف كازار وادي ثمرت انت وانت وادي البري غرار أمض الضيور انتكواس أمض الضيور الأخلا أشفانا ندرن لا شوش مالات الزين دي الغربة أزرانا ندز دلان ما يلورونك نارا يلوان دايف رورا يلوان دايف رورا نتروحو نتسوغال ديك ينيغم يفراخ
في مدينة يلوان يريس ويلاس هتريد يقواس هكود التتانة واسم تيني واسا في مدينة يلوان يريس ويلاس هتريد يقواس هكود التتانة
فريني مولانا كذ وانسي دي فروري يونو ريفريني زنقان انتي زين الباري انا اليوم دكار اكنا دي بدو تكلي لولا غندا لولا لولا غضيقي ونمكان اجتيت اذ الفنار اذ سالزرغي بردا متيني واسغى في مدنا يا ودي لي سوايا بس اتريدي خواسك ذات متى واس متيني واسغى في مدنا يا ودي لي سوايا بس اتريدي خواسك ذات متى واس متيني واسغى في مدنا
Le grand déballage revient dans un instant. 18h, 20h, le grand déballage, Delphine Thébault.
Et Beurre FM, dernière partie du grand déballage jusqu'à 20h, dernière partie également de cette émission spéciale sur le vivre ensemble, une émission organisée et montée conjointement entre Beurre FM Rouen et RCF Haute-Normandie, une émission qui porte sur le dialogue interreligieux entre chrétiens et musulmans et sur le vivre ensemble. Je laisse aux commandes Mohand Marouf et Pauline Noack-Fressigne. Excellente soirée à tous.
Et justement, ce vivre ensemble se passe très bien puisque nous arrivons à cette troisième et dernière partie. Je vous l'appelle, donc elle est coproduite à la fois et par Beurre FM Rouen et par RCF. Donc le thème du vivre ensemble. On retrouve Clotilde Henry, présidente de la maison d'édition De Plume. C'est ça, bonjour Clotilde.
Tout à fait, bonjour.
Et Khalid Jelali, écrivain, animateur bénévole sur Beurre FM, chez nous. Militant actif du vivre ensemble. D'ailleurs, tu as initié ce vivre ensemble sur Beurre FM. Bonjour Khalid. Oui,
bonjour.
Merci d'avoir accepté à tous les deux cette invitation. Je rappelle également que vous avez publié un livre, une espèce de fiction, Génutopium, mais dans laquelle on finit par vivre ensemble.
Alors oui, on a publié une fiction tous les deux. Alors à la fin du premier tome, ils finissent pas encore par vivre ensemble. Il faut pas tout dévoiler. puisque le tome 2 n'est pas encore sorti.
C'est juste pour rappeler à nos auditeurs qu'en lisant ce livre que j'ai trouvé passionnant, Pauline, on se retrouve dans une société, on va dire, divisée. Il y a une partie dite populaire et une partie dite élite. Donc c'est à vous, Khalid, de nous expliquer comment ce vivre ensemble peut-il s'intégrer également dans ce roman.
Alors dans ce roman, il y a quand même une subtilité, parce que les gens vivent ensemble, mais sont obligés d'adhérer à ce qu'on appelle un segment, qui est un groupe philosophique. Donc en fait, ils n'ont pas le choix déjà que d'adhérer à une philosophie de vie. Après, il y a une fracture entre l'élite, entre guillemets, politique et le peuple qui vit dans ce qu'on appelle le carré. Donc la notion de carré, d'ailleurs, c'est une notion forte, hein. Ils sont dans un carré. Dans un cadre bien strict et ils ne peuvent pas faire ce qu'ils souhaitent. Il y a un contraste avec l'élite parce que les hommes politiques qui vivent au Génitopium vivent dans ce qu'on appelle le cercle, quelque chose d'harmonieux, circulaire. Et ils sont choisis en fonction de leur capacité intellectuelle, leur capacité à résoudre les problèmes. Mais ce qui est un peu particulier dans ce roman, c'est que il n'y a pas de monnaie. Donc en fait, il y a un système informatique qui gère l'offre et la demande des biens et services. Du coup, le peuple, lui, rationné, mais pas l'élite qui vit au cercle.
Donc on comprend bien qu'il y a une rupture entre deux groupes dans la société.
Oui.
Et ça, c'est complètement contraire au vivre ensemble. Et ça vous a permis de réfléchir à ce sujet et d'avancer sur le thème du vivre ensemble.
Tout à fait. Il y a cette rupture géographique qui fait qu'ils ne se côtoient pas du tout, ils ne discutent absolument pas ensemble, qu'ils ne se voient même pas.
Puisqu'en fait, un membre du cercle ne peut pas avoir contact avec un membre du carré et vice-versa. Oui. Donc il y a vraiment une fracture géographique physique.
Il y a vraiment cette fracture puisqu'il y a un fleuve entre les deux rives. Ils peuvent pas changer de rive.
Et donc c'est en écrivant des fictions comme celle-là que l'on souligne ce vers quoi on pourrait aller et vers quoi on n'a pas du tout envie d'aller.
Vous avez bien...
Et alors comment est-ce que vous avez réagi à cette prise de conscience, on va droit dans le mur si on continue comme ça. Qu'est-ce que vous en faites aujourd'hui?
Alors, nous, on estime que vivre ensemble, c'est quelque chose qui devrait être naturel. On s'interroge même sur le fait de pouvoir s'interroger sur cette notion de vivre ensemble. Donc, on a bien constaté, durant cette dernière décennie, qu'il y avait une forme de crispation. Et moi, je refusais surtout le repli communautaire. Alors, c'est pas un jugement de valeur envers les personnes, parce que elles ont leurs raisons à eux, valables ou pas, qu'on comprenne ou qu'on comprenne pas, leur peur, etc. Et on s'est dit que puisque il n'y a pas eu de solution entre guillemets politique qui a fonctionné, sinon on serait pas dans cette situation là.
Oui.
Bah, nous citoyens, on va prendre les choses en main et on va essayer de faire en sorte déjà de se rencontrer, de se comprendre, de ne pas simplement tolérer les gens, mais de les accepter vraiment et de comprendre que la différence est une richesse.
Je rappelle quand même que Khalid est membre des Cafés de l'Amitié, donc il est acteur actif de l'organisation de ces Cafés de l'Amitié. Hein.
Oui, tout à fait, membre.
Alors justement, nous sommes dans le cadre du vivre ensemble. Comment allez-vous mettre des actions pour que ce vivre ensemble soit une vraie lumière, qu'il soit visible? Parce qu'aujourd'hui, on est entre nous, on est entre acteurs.
Oui, on est bien renseignés, mais c'est pas le cas de tout le monde.
Exact.
Tout à fait. Bah, Clotilde va vous parler justement d'une des démarches qu'on a eues récemment.
Oui, donc la maison d'édition De Plume est en train de construire un projet d'édition sur le vivre ensemble justement. Et c'est un ouvrage qui sortira le 26 avril prochain, dans lequel une petite trentaine d'écrivains se rejoignent et explorent la notion de vivre ensemble. Donc parmi tous ces écrivains, il y a des représentants religieux, il y a des représentants de la sécurité nationale, là dans l'occurrence ce sont des militaires, il y a des acteurs du vivre ensemble, qui sont des citoyens engagés, des représentants d'associations, des dessinateurs de presse, il y a vraiment énormément de profils différents. Tous engagés dans le vivre ensemble à Rouen, qui s'unissent, qui chacun explore sa notion de vivre ensemble. Et on compile donc tous ces textes, toutes ces visions finalement, toutes ces façons de le vivre pour en faire un livre au format poche.
Et inspirer les lecteurs sur comment eux pourraient s'engager là où ils sont.
Oui, alors c'est
des témoignages dans ce livre-là, on va retrouver, ou plutôt des contributions.
C'est des contributions.
D'accord. Parce qu'il y a des contributions qui pourront prendre la forme de témoignages, d'autres qui pourront être des essais philosophiques, donc vraiment de la réflexion, d'autres des poèmes, donc très imagés. Toutes les formes sont possibles, des dessins, des bandes dessinées, tout est possible.
Les objectifs principaux de ce livre étaient de deux. Déjà, définir ce qu'on met derrière la notion du vivre ensemble. Ah, si on regarde dans le dictionnaire, la vivre ensemble, c'est de vivre ensemble de manière harmonieuse. Bon, c'est quand même assez vaste. Alors, il y a quoi derrière cette notion de vivre ensemble? On peut vivre ensemble sans se respecter, on peut vivre ensemble en se respectant, on peut vivre ensemble, mais juste cohabiter. Bon, bref, cette idée m'est venue quand ma sœur m'a interrogé. Elle me disait, mais Khalid, tu parles beaucoup de vivre ensemble, il y a que ça que dans ta bouche, mais ça signifie quoi le vivre ensemble? Et là, moi j'avais ma définition, évidemment, qui n'est pas forcément la même que la tienne, moi, que Pauline ou que Clotilde. Et là, on s'est dit, il faut qu'on écrive un livre pour expliquer cette notion de vivre ensemble et en plus pour faire rayonner les actions du vivre ensemble qu'il y a sur le territoire de Rouen et proche agglomération.
Clotilde, est-ce que c'est un engagement citoyen de l'édition de Plume?
Oui, c'est un engagement, bien sûr. Par exemple, Beurre FM, RCF parlent du vivre ensemble et prônent le vivre ensemble sur les ondes. Et bien, De Plume va prôner le vivre ensemble sur le papier. Tous les acteurs, tous les contributeurs de livres prônent le vivre ensemble dans leur quotidien, dans la vie de tous les jours, par des vraies actions. Donc voilà, c'est encore un canal différent.
J'ai une question un petit peu indiscrète, mais vous, en préparant l'émission, vous m'avez autorisé à vous la poser à tous les deux. Vous formez un couple dans la vie, un couple mixte du point de vue de vos religions respectives. Est-ce que vous pratiquez tous les deux votre religion et comment avez-vous inventé votre propre vivre ensemble au quotidien par rapport à cette pratique?
Alors oui, on pratique tous les deux notre religion et on n'a pas réinventé de vivre ensemble, on n'a rien fait de particulier,
donc, Clotilde,
on a juste vécu ensemble.
Voilà, Clotilde, vous êtes chrétienne. Khalid, vous êtes musulman.
Tout à fait.
Tous les deux, vous arrivez à pratiquer votre foi tout en existant ensemble.
La question même nous paraît étrange parce qu'il n'y a aucune raison qu'on ne s'entende pas et qu'on ne puisse pas vivre ensemble avec une foi différente.
Oui. Il fallait que je vous la pose.
Oui, et c'est vrai qu'on nous pose souvent. Mais ce qui est étonnant, alors on a des questions qu'on nous pose, on se dit pourquoi, mais pourquoi ils nous posent ces questions? Et en fait, on essaie de prendre du recul et de se mettre à la place des autres. Nous, ça nous a demandé aucun effort, aucun sacrifice, rien. Clotilde a vu sa foi catholique, elle va à la messe, ça m'arrive de l'accompagner quelquefois. Moi, je vais à la mosquée, je fais ma prière, pareil pour Clotilde. Et il y a aucune contrainte particulière.
D'ailleurs, en islam, Pauline, on dit « nulle contrainte en religion ». On ne force pas quelqu'un à changer de religion. Voici ma religion, voici la tienne. Chacun a le droit de vivre sa différence.
Et ça serait même prétentieux de prétendre d'avoir la vérité absolue. Parce que si on n'avait pas cette prétention d'avoir la vérité absolue et simplement de suivre un chemin, on n'essaierait pas de convaincre l'autre.
Avez-vous le sentiment que la foi de l'autre vient enrichir votre propre foi?
Clotilde, oui.
Khalid également.
Oui, de toute façon, que ça soit dans la vie de couple ou même dans les relations amicales. Voilà, moi je fréquente beaucoup de imams, prêtres, moines bouddhistes, toutes les religions. Et en fait, mutuellement, on s'enrichit, notre foi augmente. Et ça, c'est intéressant.
Et quel est le plan pour vos enfants?
Mais ils seront libres de choisir leur religion ou pas d'ailleurs, mais ils seront libres.
Pas de contraintes.
De toute façon, la foi est basée sur la croyance. C'est-à-dire que on est musulman parce qu'on a la foi en quelque chose. Contraindre exclut la foi, donc ça n'a plus de sens de contraindre. Et l'idée, c'est tout simplement de donner une diversité religieuse, une connaissance religieuse à nos enfants, quelle que soit la religion, et ils feront bien ce qu'ils ont envie de faire.
Merci à tous les deux pour ce témoignage qui vient vraiment du cœur et pour votre engagement à tous les deux aussi. Pour se vivre ensemble et notamment avec le livre qui va paraître bientôt et on l'annoncera sur nos antennes parce que c'est suffisamment important pour qu'on le souligne en gras. Merci à tous de nous avoir écoutés, auditeurs de Beurre FM, auditeurs de RCF. On espère que ces quelques contributions auront fait bouger des petites choses dans vos têtes et que vous aurez vous aussi envie de vous engager pour le vivre ensemble là où vous habitez et que ça fasse tache d'huile pour toucher les cœurs. Et créer un monde plus fraternel. Cette émission sera disponible en podcast sur rcf.fr dans la page émission l'écologie intégrale pour les nuls et je laisse Mohand conclure l'émission.
Merci d'abord pour cette invitation Pauline. Je crois qu'aujourd'hui on a démontré que le vivre ensemble est une réalité. Nos deux communautés se retrouvent sur deux médias qui leur ressemblent. À partir de cette première expérience, je pense que les portes vont s'ouvrir. Le dialogue va encore s'améliorer grâce notamment à ces acteurs du vivre ensemble, qu'ils soient écrivains, qu'ils soient acteurs associatifs ou nous-mêmes hommes de médias.
Et voilà, c'est la fin de ce grand déballage un petit peu spécial aujourd'hui. Nous étions ensemble pendant 2 heures. Ça a été un vrai plaisir de vous accompagner. Dès la semaine prochaine, dès vendredi prochain, 18h, même endroit, même place, Adil Farkan reprendra le flambeau avec ses invités pour débattre de l'actualité de la semaine. Passez tous un excellent week-end sur Beurre FM. Au revoir.
Retrouvez le grand déballage en direct tous les vendredis de 18h à 20h et en podcast sur beurrefm.net.